François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et président des Amis de l'Université de Tel Aviv. Et je souhaitais évoquer avec vous ce soir à la fois le succès éclatant de la campagne de vaccination contre le Covid en Israël et en miroir l'échec cuisant du lancement de cette même vaccination, mais cette fois en France. Alors, tout d'abord, quelles sont, d'après vous, les raisons des échecs à répétition de la politique sanitaire française, des masques, aux tests et maintenant au déploiement des vaccins ?
Tout à fait, Pierre. C'est très étonnant, c'est très sidérant et c'est inquiétant et triste pour notre pays. Ce qui est frappant, on le voit déjà dès le départ, c'est que si on regarde les 10 premiers jours de la campagne de vaccination en Israël, en 10 jours, ils vaccinent 7,5% de la population. Et en France, on avait vacciné au bout de 10 jours que 138 personnes. Ces données ont frappé tout le monde, y compris en France. Cela a choqué. Et cela a choqué parce que ça a rappelé des tristes souvenirs, comme vous l'avez évoqué. L'absence de masques et le retard de masques, la lenteur des tests en septembre, et maintenant l'extrême lenteur, pour ne pas dire plus, du démarrage de la vaccination depuis fin décembre. Et on voit, à mon avis, trois postures du ministre de la Santé au Premier ministre, du Président de la République et des autorités sanitaires conduisent aux mêmes échecs et aux mêmes erreurs. Le premier échec, c'est le déni de la réalité, voire le mensonge. Le mensonge, les masques ne sont pas utiles, les vaccins, il faut bien attendre, il faut bien tester. Deuxième erreur, c'est la pratique de l'excuse soi-disant scientifique. On s'abrite toujours derrière une autre autorité scientifique qui vous contredit le lendemain. La troisième chose gênante, c'est la non-reconnaissance de l'erreur. On a le droit de se tromper, surtout face à une pandémie aussi grave et aussi complexe. On n'est pas des super-hommes, on n'est pas des super-gestionnaires. On peut se tromper. Et puis, à chaque fois, un changement tardif et radical de stratégie. Il faut que le masque soit porté par tout le monde. Il faut que ce masque soit obligatoire, là où il n'était pas utile. Il faut qu'on accélère la campagne de vaccination, là où il fallait aller doucement. Et donc, on a la désagréable impression de relire l'étrange défaite de Marc Bloch. Marc Bloch, qui était un grand historien français, qui était capitaine pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, à l'été 40, décrit la défaite dans un livre passionnant qui s'appelle « L'étrange défaite ». Et voilà ce que Marc Bloch écrivait à juste titre sur les aveuglements et les erreurs de l'état-major. Je vais vous lire une citation. « Jusqu'au bout, notre guerre aura été une guerre de vieilles gens ou de forts anthèmes. » Engoncé dans les erreurs d'une histoire comprise à rebours, une guerre toute pénétrée par l'odeur de moisi qu'exhale l'école, le bureau d'état-major du temps de paix ou la caserne. Eh bien, ce qu'on peut changer juste à cette citation, c'est les termes état-major et on peut remplacer l'état-major par les plus hautes autorités sanitaires et administratives de notre pays. Une autre citation de Bloch qui m'avait frappé par rapport à cette crise sanitaire, c'est que d'un bout à l'autre de la guerre, le métronome des états-majors ne cessa pas de battre plusieurs mesures en retard. Et c'est le même sentiment de sidération que nous avons chaque fois que le président, le premier ministre, le ministre de la Santé ou le directeur général de la Santé s'expriment. Ils constatent alors que l'annonce est toujours en retard de plusieurs semaines, des semaines fatidiques face à la pandémie. Et j'ai lu un article passionnant dans le Figaro de samedi d'un économiste absolument brillant, Antoine Lévy, économiste au MIT aux États-Unis, un Français, mais qui étudie là-bas. Il identifie cinq causes fondamentales pour l'échec français. Le premier, c'est le mépris pour la clé du succès dans une telle opération de vaccination qui est la logistique. Et à chaque fois, on a eu le problème. Sur les masques, on a trop tardé à faire appel aux grandes surfaces pour distribuer les masques. Sur les tests, on n'a pas utilisé les vétérinaires quand il fallait utiliser les vétérinaires. Et sur les vaccins, on manque de congélateurs, on n'a pas prévu les circuits de distribution et on n'a pas mis en place des vaccinodromes qui seront beaucoup plus efficaces dans une vaccination. La deuxième erreur, c'est la faute par omission. On ne fait pas grand-chose parce qu'on a peur d'être accusé d'erreur et c'est un peu le syndrome du sang contaminé. La troisième cause, c'est l'absence de culture quantitative et de sens des proportions. Une journée de gagnée sur la pandémie, c'est 300 vies sauvées et c'est plusieurs milliards économisés à l'État. Donc pourquoi faire des économies de bouche-chandelle sur l'achat de congélateurs ou sur de centres de vaccination ? Les proportions sont incomparables. La quatrième, c'est la culture de l'excuse. Toujours la faute des autres. C'est la faute de la Chine, c'est la faute des pangolins, c'est la faute de l'Europe. Non, la faute, le principal responsable, c'est la faillite de l'État français. Et il faut la reconnaître. Et il faudra, quand on sera sorti de la crise, le réformer. La cinquième et dernière erreur, c'est le déni du réel. On est fasciné par la communication, on fait que de la communication. En temps de crise, ce n'est pas la communication qui compte, c'est l'action. Les gens ne veulent pas de la pédagogie, ils veulent des actes. Et donc, des actes pour sauver des vies.
Alors, François Heilbronn, quelles sont, d'après vous, les raisons de la stratégie gagnante d'Israël dans la course à la vaccination qui font de ce petit pays le champion mondial de la vaccination avec, à ce jour, 15,8% des habitants vaccinés contre 1,4% aux États-Unis et en Grande-Bretagne, comme en France, 0,01%.
Ben, ces chiffres sont affolants, ça revient à ce qu'on disait en introduction. C'est 15,8% de la population vaccinée en Israël aujourd'hui, en France, 0,01%. Alors, pourquoi le succès israélien? Alors, j'ai regardé, j'ai lu la presse, je me suis renseigné auprès de mes amis de l'Université Tel Aviv. J'en ai identifié 7. Voici, à mon avis, les 7 principales raisons. Première raison, Israël, comme pour les masques, a très tôt sécurisé des volumes importants de vaccins. Il y a l'anticipation, il y a l'utilisation de tous les circuits, y compris les circuits services secrets, pour sécuriser très tôt des stocks importants. Deuxième raison, Israël a l'habitude de gérer rapidement des situations de crise, évidemment, face à la guerre, mais au-delà de la guerre, face à des situations sécuritaires dures, des attaques terroristes, des attaques de missiles. Et donc, ils ont l'habitude de réagir vite face à des challenges très durs. Troisièmement, Israël sait que la logistique est fondamentale en temps de guerre, mais aussi face à une crise sanitaire. Donc, ils ont une logistique simple et efficace, avec une importance de la logistique très forte, et ils ont mis en place des vaccinodromes, donc des grands centres de vaccination, qui sont beaucoup plus efficaces que d'aller faire la queue chez son médecin de quartier. Quatrièmement, c'est un pays qui a une culture du résultat, le fameux Tarkless. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas de la communication qui compte, c'est le résultat. Cinquièmement, il y a eu un véritable plan, une anticipation de la plupart des dirigeants. Dès le début décembre, il y a eu une campagne sous forme de spot publicitaire pour convaincre face à se faire vacciner. Parce qu'en Israël, il y avait aussi des gens, comme en France, qui sont contre les vaccins, notamment dans les milieux orthodoxes, dans certains milieux musulmans. Il y avait une réticence au vaccin dès début décembre, avant le début de la vaccination, des grands spots publicitaires. Et puis la culture de l'exemple, le chef du gouvernement était le premier Israélien à être vacciné, Netanyahou s'est fait vacciner en premier. On attend toujours que Jean Castex ou que des ministres soient vaccinés en France, il n'y en a aucun qui ont été vaccinés à ce jour. Enfin, une organisation médicale simple, ils ont mis en concurrence les 4 caisses de sécurité sociale en leur donnant des objectifs très précis, et l'autre système qui fonctionne, mais on a le même à peu près en France, c'est qu'il y a un numéro d'identification unique pour chaque Israélien et on convoque chacun en fonction de sa date de naissance et de son mois de naissance. On a la même chose sur le carte de sécurité sociale. Enfin, dernière raison, je pense que c'est une raison importante aussi fondamentale, c'est que c'est un pays fondamentalement tourné vers la modernité. Il y a à la fois la croyance dans les sciences, que les sciences sont le progrès, et la deuxième, la dynamique de l'exemple. Et cette dynamique de l'exemple est embrayée aujourd'hui en Israël, et même les gens qui étaient réticents au vaccin maintenant font la queue pour aller se faire vacciner.
Alors, dernière question avec vous, François Heilbronn, comment s'inspirer de la mise en œuvre israélienne pour accélérer la vaccination en France?
Alors, je pense qu'il y a 8 choses à faire de manière prioritaire, à partir des exemples justement qui marchent en Israël, mais aussi qui marchent en Angleterre et dans une moindre mesure en Allemagne. Premièrement, il faut lancer une campagne de spot publicitaire pour expliquer à tous les mérites du vaccin, leur importance et pourquoi ça va nous faire sortir de la pandémie très vite. Deuxièmement, il faut, dans le même temps, que nos leaders se fassent vacciner. Il faut que Jean Castex aille se faire vacciner en direct à la télé. Olivier Véran aussi devra l'accompagner, ainsi que la plupart des ministres. Emmanuel Macron, ce n'est pas la peine, puisqu'il a déjà eu le Covid et devrait avoir des anticorps. Mais s'il n'a pas d'anticorps, il devrait se faire vacciner aussi devant les caméras. Deuxièmement, c'est avoir des objectifs très ambitieux. Toute stratégie doit partir d'objectifs ambitieux, et plus ambitieux que ceux officiels affichés aujourd'hui en nombre de vaccinés. Afficher 14 millions de vaccinés dans 3 mois, c'est rien. 14 millions, c'est même pas un Français sur 5. C'est absolument insuffisant. 20% de la population vaccinée dans 3 mois, c'est pas assez. Donc, il faut avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux. Troisièmement, pour la logistique, il faut mobiliser les gens qui savent faire. C'est pas les autorités sanitaires qui savent faire. Il faut l'armée. L'armée a des plans. Ils savent déployer des unités de protection et de projection aussi bien au Koweït que plus récemment au Mali. Ben, là, on leur demande de livrer des doses de vaccins. C'est pas très compliqué. Et il faut évidemment acheter des centaines de congélateurs à moins 80 degrés pour pouvoir irriguer tout le territoire français rapidement. Quatrièmement, il faut vacciner en priorité tous les publics fragiles de plus de 75-80 ans, et je dirais même de façon quasi obligatoire. parce que on va leur sauver la vie. Il ne faut pas leur demander leur consentement et réfléchir pendant 5 jours. Cinquièmement, il faut simplifier à l'extrême les processus qui ont été mis en place. Les processus, moi j'ai vu le document de 45 pages qui a été envoyé aux EHPAD, que m'a donné un ami directeur d'EHPAD, c'est un cauchemar bureaucratique. C'est-à-dire, vous êtes directeur d'EHPAD, vous recevez ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas vacciner un seul de vos résidents. Quatrièmement, en fonction du numéro de sécurité sociale, donc avec, où à chaque fois il y a l'âge et le mois de naissance de chaque personne, convoquer les Français par âge décroissant pour se faire vacciner. Et s'ils ne viennent pas à la convocation, ils ont raté leur tour. Alors on peut peut-être leur laisser une chance de se rattraper, en leur donnant une deuxième possibilité, mais s'ils ratent une deuxième fois leur tour, ils ne se feront pas vacciner. Et comme ça, on va vacciner les gens qui sont volontaires et ça va créer un système d'émulation. Septièmement, il faut mobiliser tous ceux capables de vacciner, les médecins de ville, les pharmaciens, les infirmiers, les étudiants en médecine, et créer des vrais vaccinodromes qui, comme on l'a vu en Israël, sont beaucoup plus efficaces que aller se faire vacciner en pharmacie ou chez votre médecin généraliste. Huitièmement, et c'est la dernière chose qu'il devrait faire, c'est que si les objectifs quantitatifs ambitieux ne sont pas atteints, ben les responsables, ils sautent. Quand un général perd une bataille, ben il dégage, on le remplace. Si Olivier Véran, Jérôme Salomon et tous les responsables des autorités régionales sanitaires ne tiennent pas les objectifs de vaccination, eh bien, ils sont remplacés. On doit changer. On a un réel défi à relever pour sauver la France de cette crise sanitaire qui, d'abord, tue énormément. C'est tue quand même entre 200 et 300 personnes par jour. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, il y a pratiquement 10 000 morts. Un mois de gagné, c'est 10 000 vies sauvées. Et puis, sur le plan économique, ce sont des milliards et des milliards, voire des centaines de milliards, pour tous les mois de retard que nous aurons face à cette pandémie. Donc, il y a un défi énorme à relever. Il faut que la pression sur le président et sur le gouvernement soit au maximum pour qu'à leur tour, ils mettent une pression maximum sur l'administration française qui n'a que trop tergiversé et qui a montré sa faillite éclatante depuis une dizaine de mois.
François Heilbronn, professeur associé à Sciences Po et président des Amis de l'Université de Tel Aviv. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.